Vous écoutez RTL.
Il est 18h.
Jacques Seret.
RTL Soir.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une demi-heure d'information sur RTL. À la une, une marche historique dans les rues de Barcelone, 9 jours après le double attentat qui a frappé la Catalogne. Nous serons sur place dans un instant. Les États-Unis frappés par l'ouragan Harvey, d'importants dégâts au Texas où l'on craint des inondations sans précédent. Manifestation des épouses de militaires français cet après-midi à Paris. Hier, un soldat de l'opération Sentinelle s'est suicidé avec son FAMAS. Le Touquet, une ville très politique, bain de foule pour Emmanuel et Brigitte Macron, campus de rentrée pour les Républicains en ordre dispersé. La fin des vacances qui approche, nous irons à Antibes et puis beaucoup de monde sur les routes en ce dernier week-end du mois d'août. La journée était classée rouge dans le sens des retours. Charles Dodon, quelle est la situation ce soir?
Encore quelques difficultés en vallée du Rhône, exclusivement vers le nord du pays, depuis Orange. Il faut 2h20 pour rallier le sud de Lyon sur la 7, soit une trentaine de minutes supplémentaires. Près de la Méditerranée, quelques secteurs encore difficiles sur la 9, sur les premiers kilomètres en provenance de l'Espagne ainsi qu'au nord de Narbonne. Dans l'ouest, l'arrivée à Bordeaux se fait toujours au ralenti sur la 63, même chose au départ de Bordeaux sur la 10. A noter que sur cet axe, on a toujours des bouchons à Niort et à l'approche de Tours. Enfin, des difficultés dans le Puy-de-Dôme, vers le nord du pays, ça coince sur la 71 entre Clermont-Ferrand et Montmarault.
Merci Charles Dodon. La quatrième journée de Ligue 1, c'est la mi-temps entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. Philippe Audouin.
Exactement, mi-temps à l'instant entre Nantes et Lyon à la Beaujoire, 0-0, mais la domination et les occasions sont très clairement en faveur de Lyon.
Merci Philippe. La météo, Valérie Quintin, bonsoir.
Bonsoir.
Il fera un peu moins beau, mais toujours aussi chaud demain.
Oui, c'est vrai qu'on va avoir une tendance orageuse un peu plus marquée. Pour autant, ce ne seront pas des orages non plus en continu. Une ligne orageuse qui va s'étendre du sud-ouest au nord-est en passant par toutes les régions centrales. Ça va déborder également sur l'île de France. Mais de part et d'autre, on peut quand même s'attendre à une belle journée ensoleillée. Ce sera le cas des Alpes à la Méditerranée. Puis à l'arrière de ces orages, entre le nord, la Normandie et la Bretagne. Sous les orages, bien sûr, ça pourra tomber localement et ponctuellement assez fort. Mais entre deux, on aura quand même des éclaircies. Et tout cela avec des températures qui restent très estivales, comprises entre 12 et 21 degrés au réveil de Rouen à Bastia, comptez 22 à 36 l'après-midi, avec 29 degrés à Paris, à Strasbourg, à Lorient, 32 pour Bordeaux et Poitiers, et 35 degrés à Lyon et à Manosque.
Merci Valérie. Le quintet avait lieu à Deauville cet après-midi. Il fallait jouer le 2, le 13, l'As, le 14 et le 16. À 18h20, on refera les courses avec Bernard Glace et Claude-Pierre Santi.
RTL Soir avec Jacques Seret.
Les États-Unis face à l'ouragan Harvey, la tempête qui s'essouffle progressivement a violemment frappé le sud du Texas. Les vents ont parfois dépassé les 215 km/h. Les inondations s'annoncent catastrophiques. Actuellement, il est 11h du matin sur place. Chloé Cohen, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Les Texans qui ont refusé d'évacuer la zone se réveillent avec d'importants dégâts tout autour d'eux.
Les habitants sont encore loin d'être en sécurité car l'ouragan va rester sur place et provoquer des inondations catastrophiques selon les météorologues. Jusqu'à mercredi, on prévoit des pluies torrentielles. Les eaux pourraient monter jusqu'à 3 mètres dans certains secteurs. Aucune personne n'a été tuée. Les dégâts matériels sont très importants, même s'il est encore difficile de les évaluer précisément. Vu les conditions météo, les secours ont du mal à circuler. Carl, un habitant de Rockport sur la côte texane, a décidé de rester chez lui malgré les recommandations des autorités. Sur CNN, il décrit l'ampleur des dégâts.
Devant et derrière notre maison, on voit des arbres arrachés. Notre allée privée est bloquée, on ne peut même pas sortir de chez nous. L'une de nos voitures a été abîmée par la chute d'une tuile. Elle est hors d'usage aujourd'hui.
À Rockport, toujours, le toit d'une maison de retraite s'est effondré, blessant au moins une dizaine de personnes. Et plus de 250 000 foyers sont actuellement privés d'électricité.
Chloé Cohen, correspondante de RTL aux États-Unis. À Barcelone, 9 jours après le double attentat qui a frappé la Catalogne, des milliers de personnes se rassemblent en ce moment même dans les rues de la ville. Une grande manifestation populaire pour dire non au terrorisme. Diane Cambon, vous êtes sur place pour RTL. À l'image du 11 janvier 2015 à Paris, après l'attentat contre Charlie Hebdo, ce qui se passe actuellement dans la capitale de la Catalogne s'annonce déjà comme une marche historique.
Munis d'une fleur rouge, jaune ou blanche, les couleurs du drapeau de la ville, des dizaines de milliers de Barcelonais, mais aussi des touristes, sont venus participer à l'immense manifestation contre le terrorisme. La société civile a été placée en tête du cortège derrière un unique slogan « Notting Port, je n'ai pas peur ». Ce sont les médecins, commerçants, pompiers et taxis, tous ceux qui sont venus en premier en aide aux victimes des attentats. Parmi les manifestants, Véronique, une Française, impressionnée par cette mobilisation de la société catalane.
Ah oui, c'est émouvant. On sent, il y a, je sais pas, c'est palpable, c'est dans l'air. C'est... Même si on n'est pas spécialement... Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est voilà. Ça nous prend partout.
Christophe, en visite à Barcelone, a tenu aussi à participer à cette grande marche symbolique.
Ben, c'est important parce qu'il faut faire voir qu'on n'a pas peur. Déjà. Et voilà, on est là. Tout simplement. Et on s'est arrêté à Barcelone justement pour voir et pour être à tout cœur avec les Espagnols.
Un rassemblement sans précédent qui réunit pour la première fois toutes les institutions de l'État espagnol, y compris le monarque Philippe VI.
Diane Cambon, correspondante de RTL en Espagne. Les actes de terrorisme islamiste qui se poursuivent en Europe. Hier soir, trois militaires ont été attaqués par un homme armé d'un couteau à Bruxelles, près de la Grand Place. L'assaillant, un Belge d'origine somalienne, a été abattu. Et puis, à Londres également hier soir, un homme a été arrêté devant le palais de Buckingham Palace. Les policiers avaient remarqué un grand couteau dans sa voiture. Au cours de l'interpellation, deux agents ont été blessés au bras. La menace terroriste, mais aussi des conditions de travail qui se dégradent, c'est ce qu'ont souhaité dénoncer cet après-midi les épouses des militaires français. Elles se sont réunies pour une manifestation à Paris devant l'hôtel des Invalides. Marie Mollet, vous étiez sur place pour RTL. Ce rassemblement a eu lieu alors qu'on a appris dans l'après-midi qu'un soldat de l'opération Sentinelle s'est suicidé avec son FAMAS hier soir dans les locaux de la Marine nationale à Paris.
Oui, parmi les épouses de militaires, ce suicide résonne avec les récits de leur propre mari. La pression psychologique, l'épuisement et selon Delphine, l'absence de reconnaissance.
Moi je me dis, il en faudra combien encore avant que le gouvernement ne bouge. C'est des hommes, on les considère comme des robots.
Pendant le rassemblement, les épouses énumèrent une à une les difficultés de leur époux, avec en tête les soldes payés trop tard. L'époux de Jessica est revenu d'Afghanistan avec 700 euros par mois.
Il y a des bugs à répétition qui rendent la gestion du budget complètement incertaine. Fermeture de compte bancaire, j'ai retiré tous les chauffages électriques. On chauffe au bois, le frigo est pas plein. On n'a pas le droit au Resto du Cœur, on n'a pas le droit à la Croix-Rouge.
Des difficultés financières et selon Marie, des manques de moyens jusqu'au matériel de sécurité le plus rudimentaire.
Tous les mois, on investit au moins 200 euros dans du matériel. Bah, il a dû acheter gilet pare-balles, sangles de FAMAS, à la charge de notre couple. Et oui, on craint pour eux du coup. Quand on voit que le matériel défaille, on craint que ça tombera sur eux et qu'ils ne reviennent jamais.
Et toutes se sont rassemblées aux Invalides, là où sont rendus les hommages aux soldats morts sur le terrain. La prochaine manifestation aura lieu à Toulouse en septembre pour porter la voix de leur époux, tenu par le devoir de réserve.
Le reportage de Marie Mollet pour RTL. À Marseille, un homme muni d'un couteau a attaqué trois personnes tôt ce matin dans le centre-ville. Les victimes sont légèrement blessées. Selon nos informations, l'homme âgé de 35 ans est un déséquilibré. Il tenait des propos incohérents mais n'a proféré aucune menace que ce soit. Arrêté par la police municipale, il a été hospitalisé d'office.
RTL Soir avec Jacques Serret.
18h09 sur RTL. Avant de réunir lundi son gouvernement au grand complet pour un séminaire de rentrée, Emmanuel Macron passe le week-end dans sa maison du Touquet. Une venue dans le Pas-de-Calais qui n'est pas passée inaperçue cet après-midi. Tout sourire, en jean et veste de cuir, le président s'est offert un bain de foule aux côtés de son épouse Brigitte devant leur villa. Près de 150 personnes étaient massées devant la maison pour tenter de les approcher et faire des selfies.
Ça va, jeune homme, tu veux bien ?
Bonjour.
Vous êtes content d'être au Touquet ?
Toujours.
J'adore le Touquet. Vous allez bien ?
C'est quoi votre programme, monsieur le président ?
Et bien là, un peu de famille et du travail.
Dieu vous guide.
Merci.
Projet, que tout se réalise.
Et pendant ce temps-là, à quelques centaines de mètres seulement de la villa des Macron, se tient le premier événement de la rentrée pour la droite, le campus des jeunes républicains. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Vous êtes au Touquet pour RTL. Ici, pas de bain de foule, pas de selfie. C'est un parti encore sonné par la présidentielle qui tente ce week-end de se relancer et qui va devoir dans les prochaines semaines se trouver un nouveau leader.
Un parti presque atomisé, effectivement, orphelin d'un chef, d'un patron, mais surtout d'un rassembleur qui puisse colmater les fissures qui existent aujourd'hui chez les Républicains. L'ancien ministre Éric Woerth met d'ailleurs en garde le futur vainqueur.
Tout ce que je sais, c'est que moi, ce que j'attends, c'est que celui qui gagnera, il représente tout le monde. De la droite jusqu'au centre.
En clair, quelqu'un qui ne soit pas clivant, critique à peine voilée à l'attention de Laurent Wauquiez, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est le grand favori pour remporter cette élection interne, même s'il y a de la concurrence. La jeune Florence Portelli, par exemple, ex-porte-parole de François Fillon, bientôt candidate, elle aussi, refuse de considérer cette élection comme jouée d'avance.
J'ai déjà entendu cette petite musique pour des candidats qui, après, ont été largement battus dans diverses élections, qu'elles soient primaires ou hélas présidentielles. Donc je crains que ce soit une petite musique qui en même temps peut-être manque un petit peu de clairvoyance par rapport à l'état d'esprit des militants actuellement.
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse doivent s'exprimer tour à tour. Le premier ce soir, la deuxième demain. Point commun, ils ne sont pas candidats, mais les deux détestent Laurent Wauquiez. Entre conflits personnels et haine politique, la nouvelle saison des Républicains promet une fois encore son lot de règlements de compte.
Dominique Tenza au Touquet pour RTL. Les ordonnances de la réforme du Code du travail seront dévoilées jeudi. La ministre du Travail prend les devants et défend son projet dans un entretien au journal Le Monde. Il n'y aura pas de casse sociale, c'est l'inverse, annonce Muriel Pénicaud. La ministre indique que d'ailleurs que les emplois aidés seront désormais ciblés sur les personnes les plus éloignées de l'emploi et réservés aux secteurs qui en ont le plus besoin. La fin des vacances approche, eux en profitent jusqu'au bout. Le Secours populaire français a offert aujourd'hui à plus de 3000 enfants et parents de la région PACA une journée dans un parc d'attractions d'Antibes, Aquasplash. Kelly Vargin, vous étiez aux côtés de toutes ces familles qui ne peuvent pas partir en vacances. Grâce à l'association, la fin de l'été se termine pour eux en beauté.
Elle comptait les jours avant de venir dans le parc. Alia, 15 ans, veut tester avec sa copine toutes les attractions et surtout celles qui font peur.
On a fait le U, ça fait un peu peur. Ce qui est bien dans ce parc, c'est qu'il y a l'adrénaline et qu'on a envie de faire les jeux même si ça fait peur et on passe un bon moment entre amis ou en famille. On se mélange tous en fait. Il n'y a pas de ceux qui n'ont pas les moyens et ceux qui ont les moyens d'y aller. C'est tout le monde ensemble. On profite bien tous ensemble en fait.
Pour Enzo, c'est la première vraie sortie de l'été. Il passe habituellement ses vacances chez lui à Grasse.
Des fois, je vais faire du vélo dehors. Des fois, je vais chez des amis. Des fois, il n'y a pas tout le monde qui répond, il y a tout le monde qui est en vacances. Ou ben, je m'ennuie, moi, être tout seul.
Appareil photo dans les mains, Adia immortalise ses moments de joie. Elle est venue avec 9 membres de sa famille, une sortie exceptionnelle.
On n'a pas les moyens de sortir tous. On est compte, on venait tous au prix de l'entrée. C'est mon salaire du mois, ce ne serait pas possible. Là, on pense à rien, là, on est là, on pense à rien. On ne parle même pas de notre vie, quoi. On est plus en train de parler des activités, de la journée qu'on est en train de passer.
Une journée qui aura coûté 45 000 euros au Secours populaire.
Le reportage de Kelly Vargin pour RTL. La quatrième journée de Ligue 1, je le rappelle, toujours 0-0 à la mi-temps entre le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. En Ligue 2, Lorient s'est imposé 2-1 face à Reims. À 20h, 5 matchs à suivre dans le multiplex RTL L'Équipe. Amiens-Nice, Bordeaux-3, Dijon-Montpellier, Toulouse-Rennes et Caen-Metz. La Ligue 1 qui va connaître une pause à partir de demain soir et jusqu'au 8 septembre pour cause de trêve internationale. Les éliminatoires de la Coupe du Monde vont reprendre. L'équipe de France affronte les Pays-Bas jeudi soir au Stade de France. Une rencontre à laquelle le défenseur du Real Madrid, Raphaël Varane, ne pourra pas prendre part. Son entraîneur, Zinedine Zidane, a annoncé son forfait ce matin en conférence de presse.
Il a été dérangé par un adducteur. C'est rien de méchant en même temps. Parce qu'aujourd'hui, oui, il pourrait jouer, mais moi je veux pas que derrière que ça s'aggrave, ou pas que ce soit plus grave et qu'on le perde pour plus longtemps. Donc on gère sa blessure et l'idée c'est que bien sûr, bien entendu, c'est qu'il reste ici pour justement s'occuper de sa blessure et de sa préparation pour préparer la saison parce que la saison elle est longue. Aujourd'hui, oui, tout est important, c'est-à-dire le match de demain il est important pour nous, le match de l'équipe de France il est certainement important pour l'équipe de France, mais la santé du joueur est beaucoup plus importante pour la saison.
Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, au micro RTL de Mathias Valton. En Formule 1, Lewis Hamilton égale le record de Michael Schumacher. Le pilote britannique de l'écurie Mercedes a décroché la 68e pole position de sa carrière lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. Sébastien Vettel, qui vient de prolonger son contrat avec Ferrari, a lui signé le deuxième temps. Le départ du Grand Prix de Belgique sera donné demain à 14h. L'heure de la reprise a sonné pour le top 14. 4 rencontres se déroulent actuellement. Stade français, Lyon, Racing, Malines, 92 Castres, Brive, La Rochelle et Montpellier, Agen à 20h45. Clermont, le champion de France en titre, affronte Bordeaux-Bègle. Warren Barguil exclu de la Vuelta, décision prise par les dirigeants de son équipe Sunweb. Il est reproché au cycliste français de ne pas avoir porté assistance à son leader victime d'un problème mécanique. Fini le Tour d'Espagne donc pour le récent meilleur grimpeur du Tour de France. A signalé sur la Vuelta la victoire d'un Français aujourd'hui. Julian Alaphilippe de l'équipe Quick-Step a décroché son premier succès en grand tour lors de la 8e étape. Les amateurs de boxe devront se lever très tôt. Demain matin à 5h précises débute à Las Vegas le combat le plus attendu de l'année voire de la décennie. Face à face, l'Irlandais Conor McGregor et l'Américain Floyd Mayweather. Certains parlent déjà du combat du siècle, un terme justifié en tout cas aux yeux de Sébastien Acariès, il est promoteur français pour la boxe anglaise.
On parle de combat du siècle, cette fois-ci c'est encore plus exceptionnel puisque voilà, on a deux garçons qui viennent de deux mondes différents dans les sports de combat. Un champion qui fait l'unanimité, c'est Floyd Mayweather. Et puis on a un garçon qui s'appelle McGregor, qui est lui la grande vedette du MMA, de l'UFC. Ce sport qui est très spectaculaire, qui est suivi par des milliers et des millions de téléspectateurs de par le monde. Ça crée l'événement, ça crée la polémique. Beaucoup de personnes se disent, bon ben, qui est le meilleur véritablement? Est-ce qu'un champion du monde de boxe anglaise peut être meilleur qu'un champion de l'UFC? Ça résonne comme le combat du siècle. Techniquement et au niveau de la vitesse, je pense qu'il y a une grande supériorité de la part de Mayweather. Si je dois donner mon avis, que ça dépassera pas les 6 rounds. Mais pour moi, je ne vois pas l'ombre d'une chance de McGregor de pouvoir battre Floyd Mayweather ce samedi soir.
Sébastien Acariès au micro RTL de Mathieu Guillot. Les recettes totales du combat devraient avoisiner le milliard de dollars. C'est d'ores et déjà un record. Mayweather pourrait empocher jusqu'à 400 millions de dollars et McGregor jusqu'à 125 millions. Rien que ça.
RTL Soir, Jacques Serey.
RTL, il est 18h17, c'est l'heure du journal du futur, direction le 10 octobre 2041. On retrouve Martial You aux côtés de Philippe Robuchon.
Le journal du futur, Martial You.
Et si votre patron était un robot? Question du jour dans le journal du futur.
Destination 10 octobre 2041.
Bonjour Martial.
Bonjour Philippe.
Ce jour-là, celui qui fait la une du Wall Street Journal est un certain Dr M, PDG du groupe coté au CAC 40, Biotech Invest Laboratory.
La photo fait sensation. Et pour cause, on y voit un écran plasma noir et quelques ondes bleues qui oscillent sur l'écran. Dr M est le premier PDG au monde à diriger un groupe coté et à être un robot.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
RTL, il est 7h16. Bonjour Dr M.
Bonjour Yves Calvi.
C'est une sensation très étrange pour moi car c'est la première fois que je fais une interview avec quelqu'un qui n'est pas humain, qui dirige quand même un groupe mondial avec des centaines de salariés et qui en plus travaille pour la recherche médicale.
Oui, je comprends que ce soit un peu déstabilisant, même si je pense qu'il y aura bientôt d'autres dirigeants d'entreprises comme moi.
Biotech Invest Laboratory est un fonds qui finance de la recherche médicale et qui travaille avec des laboratoires de scientifiques et d'universitaires un peu partout dans le monde. Dr M a d'abord été nommé comme membre du conseil d'administration. Il siégeait aux côtés de 5 humains et donnait son avis sur les investissements à faire ou pas, sur tel ou tel projet. Très vite, il a piloté la stratégie du groupe.
Un robot pour diriger des humains, l'image a de quoi faire peur.
Dr M est une machine dotée de l'intelligence artificielle. Il a donc une capacité de calcul énorme pour analyser les risques et les statistiques.
Le journal du futur.
Mais bien entendu, vous avez raison Philippe, la question c'est de savoir est-ce qu'il peut prendre des décisions stratégiques infaillibles. Tout le monde sait que les grands succès dans le business se font parfois sur une intuition très humaine. C'est la question que se posait François Langlais.
Écoutez, depuis des années, on reproche au groupe coté de naviguer la petite semaine, de ne pas avoir de vision de long terme. Cette fois, on a un dirigeant d'une entreprise de la santé qui a ingurgité et mémorisé tous les articles de Science et toutes les études d'Harvard. Et on a un dirigeant qui ne mourra pas, qui peut donc avoir une vision sur plusieurs décennies.
Accessoirement, on a un PDG qui ne se paie pas, qui peut traiter 24 heures sur 24 avec l'Asie, l'Europe puis les États-Unis et qui ne touchera aucun parachute doré s'il est licencié.
Mais peut-il être limogé ce PDG? On met un dictateur à vie à la tête d'une entreprise.
En théorie, son logiciel intègre cette possibilité d'être renvoyé par le conseil d'administration ou par un vote des actionnaires en assemblée générale. Ce qui est sûr, c'est que lui ne se prive pas de licencier les salariés qui ne sont pas assez efficaces à ses yeux. Il se soucie assez peu des partenaires sociaux et du code du travail. Il raisonne froidement avant de prendre une décision. Jacqueline Le Bihan du syndicat des travailleurs autonomes et qualifiés.
On ne peut pas discuter avec lui. Il analyse des tableaux Excel. Il prend des décisions froides et sans empathie. Il ne se laisse absolument pas émouvoir par une manifestation ou une pression des politiques.
On a donc deux visions du monde qui s'affrontent, robots contre humains. Avec l'expérience, on s'est rendu quand même vite compte qu'il fallait co-gérer les entreprises. C'est ce que constatait Michel Meyer, qui avait créé un système sans humains capable de prendre des rendez-vous pour les salons de coiffure. Présence AI.
C'est une révolution, comme au 19e siècle. La question c'est, que va-t-on proposer à ceux qui étaient les ouvriers de l'industrie tertiaire, qui faisaient des métiers qu'un robot intelligent peut faire sans problème? L'évolution des métiers de demain, la formation aux nouveaux besoins, c'est ça la clé. Et là, les enseignants et les formateurs humains étaient les seuls à pouvoir faire évoluer les salariés vers des nouveaux métiers.
Dans la foulée de la nomination de Dr M à la tête de Biotech Invest Laboratory, on a donc recommencé à parler d'un revenu universel pour les humains qui serait remplacé par des robots. Et il faut dire que c'était la première fois que ça touchait aussi des patrons du CAC 40.
Merci Martial.
Merci.
Demain, on parle de la naissance d'un nouveau mouvement littéraire.
À demain.
Retour 2017.
On refait les courses sur RTL, votre rendez-vous chaque samedi avec nous en studio. Bernard Glass et Claude Persanti. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Le quintet se court à Deauville, mais avant de l'évoquer, Bernard, vous allez donner bien sûr un coup de toque bien mérité au crack Timoco.
Oh oui, puisqu'il dispute vers 20h35 sa dernière course en France sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer où il est invaincu en 6 tentatives. Ce sera n'en pas douter un grand moment d'émotion pour son entourage et ses supporters qui le suivent depuis ses débuts à 2 ans. On peut parier sur cette épreuve. S'il l'emporte ce soir, Timoco passera la barre des 5 millions d'euros de gains, un record dû notamment à ses succès dans 15 groupes 1, dont 2 élites lopettes suédoises. Il n'a hélas jamais remporté le prix d'Amérique, mais il y a pris toutes les places possibles. Après cette tentative, Timoco devrait disputer une dernière épreuve aux Pays-Bas, puis continuer peut-être sur sa lancée à l'étranger, puisqu'âgé de 10 ans maintenant, il ne pourra plus courir chez nous à partir du 1er janvier 2018. Timoco ne croisera donc plus la route de Bald Eagle, le nouveau maître du trot qui lui n'est âgé que de 6 ans et qui va continuer dès la semaine prochaine d'augmenter son déjà riche palmarès, Claude.
Oui, ce sera le 9 septembre, Bernard, donc la finale des Masters du trot. Bald Eagle, incontestable numéro 1 européen malgré sa défaite à Solvalla dans l'Elite Club, affrontera Aubryon du Gers. Aubryon du Gers a prouvé qu'il était le meilleur hongre en France, en Europe et peut-être certainement un des meilleurs trotteurs du vieux continent, tout simplement.
Cabourg a clôturé son meeting d'hiver hier soir par un nouveau record. Près de 20 000 spectateurs ont assisté à cette dernière contre 17 000 l'an passé. Les courses reprennent du poil de la bête après 2 années difficiles, puisque selon Xavier Hurstel, le président du PMU, les enjeux à la mi-août sont en augmentation de 2,4% sur 2016. Pierre Pilarski, le principal propriétaire de Bald Eagle, a fait partie des nouveaux acheteurs aux ventes de Yearling Galloper la semaine dernière. Il a acquis son premier Poulain dans la spécialité. Avec lui, le patron de la marque Zadig et Voltaire s'est également beaucoup manifesté. Ses ventes de sélection ont connu un résultat similaire à celle des 2 dernières années qui étaient déjà des ventes records avec un prix moyen d'augmentation de 10% à 160 000 euros par yearling vendu. Le top a été d'1,5 million et de nouvelles vacations vont avoir lieu en octobre prochain pour ceux qui n'ont pu être servis à temps. C'est déjà demain le dernier des 5 dimanches du meeting de Deauville avec un point d'orgue, le Grand Prix vers 17h05. Ce sera la 6e course avec seulement 7 partants. On peut donc commencer à faire un petit bilan. Et sur les courses de groupe, Claude, les chevaux français ont souffert. C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, à ce jour, sur les 16 courses de groupe disputées, les tricolores ont abandonné 9 groupes, dont 4 des 5 groupes 1. Ce qui prouve donc la force des Britanniques. Demain, il y a 3 courses de groupe à se disputer encore. Et les visiteurs peuvent améliorer leur record qui a été de 10 établi pendant le meeting 1998, Bernard.
Et c'est donc demain le dernier quintet dominical du meeting de Deauville, une course au féminin avec 17 partantes.
Tout à fait Jacques, une épreuve très ouverte avec des 3 ans méconnus et qui viennent de tous les horizons. La distance est de 2000 mètres sur le gazon. On ne peut pas dire qu'il y ait une favorite, tout indiqué. Je vous propose 2 propos de pros que l'on peut retrouver sur notre site. On refait lescourses.fr à tout moment. Tout d'abord Michael Delzangle, il présente le 7 Scarlet Lady. C'est un entraîneur qui ne court qu'à bon escient et il espère une bonne tentative de sa pouliche qui découvre toutefois ce genre de course.
Son premier quintet, c'est une pouliche qui n'a pas beaucoup de métier. Je pense qu'elle trouvera son jour dans ces épreuves-là cette année. Je serais déçu qu'elle ne court pas bien.
Le parcours, ça va l'avantager ?
Le parcours, il n'est pas compliqué, 2000 mètres à Deauville. Je crois qu'elle a déjà fait ses preuves sur cette distance et ça devrait aller.
Et puis Stéphane Pasquier qui va monter lui à son retour des États-Unis où il est ce soir le 6 Olivia. Alors cela lui ferait plaisir de bien se comporter avec elle car c'est le prénom de sa femme.
C'est une pouliche qui s'est blessée en course il y a quelques courses et du coup elle a mis du temps avant de se remettre. Et là je trouve que ses dernières performances sont plutôt bonnes et sur une bonne lancée. Voilà, je pense que c'est une pouliche qui vaut largement un quintet.
Elle va apprécier le parcours, a priori, de 2000 mètres, ligne droite.
Ouais, je pense que ça ne va pas la déranger. Les 2000 mètres sont plutôt bons. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'elle ne se ressente pas de ses anciennes douleurs.
Ça ferait plaisir de gagner avec Olivia.
Ah ouais, ça, sinon je me fais engueuler le soir.
Espérons qu'il ne se fera pas disputer. Donc, Claude, donc une épreuve très difficile. Vous avez trouvé, vous, un outsider à Bellecote?
Oui, dans le bas du tableau, on peut s'intéresser à la candidature de Black Jacques Charlie. Donc, c'est le numéro 15, entraîné par Francis Graffard. Déjà, son entraîneur est positif, il y croit. Il faut savoir que cette pouliche, pour sa première tentative dans un handicap, a terminé 5e. Elle était mal partie. Elle a très bien fini sur 1600 mètres. Elle a prouvé en province à Aix-les-Bains qu'elle avait les 2000 mètres dans les jambes. Donc je pense que c'est une candidature intéressante. Donc pour sa première apparition dans cette catégorie, donc pensez à glisser dans vos jeux Black Jacques Charlie, le numéro 15.
Qui sera un outsider, et moi je vois bien les 2 pensionnaires de l'entraîneur François Rouault, toujours très redoutable. Il a été très discret durant ce meeting, mais là il finit fort, avec le 3 d'Iblair que Christophe Soumillon a choisi de monter, et le 5 Couella, associé à Olivier Pellier. On aurait pu trouver plus mal comme jockey. D'Iblair reste sur une bonne tentative dans une catégorie un peu meilleure, et je pense que si elle répète cette dernière performance, sa place est à l'arrivée. Voici donc notre pronostic commun pour cette 3e épreuve dont le départ est prévu vers 15h15. D'Iblair le 3, moi j'y crois. Scarlet Lady le 7, la pouliche de Michael Delzangle. Couella le 5, Olivia pour faire plaisir à Stéphane Pasquier le numéro 6, Lady Sydney le 10, Prestissima le 2, Winfella l'As et Black Jack Charlie le 15. Je vous rappelle les numéros 3, 7, 5, 6, 10, 2, As et 15. Jacques, pour ce dernier quintet dominical sur l'hippodrome de Deauville.
Merci Bernard Glace, merci Claude Pierre-Santi. Il est 18h29, bonne soirée à l'écoute de RTL. Dans un instant, on refait le match avec Pascal Praud.
RTL, c'est l'été.